Bonsoir, bonjour à tous. Les habitudes de l'amplifié, décidément, ne se perdent pas. Et bonjour à toi, Marie.
Et bonjour Rémi, on commence alors ce journal avec du national, de l'international, puis on enchaînera sur une revue de presse, un billet d'ici et un billet d'ailleurs. On commence donc ce journal avec du national et c'est toi Arthur qui va nous parler de la conclusion du grand débat national.
Oui, parce qu'après sa clôture, on commence enfin à parler des conclusions du grand débat, puisqu'il commence à tomber dans à peu près toutes les unes de presse. Et les ambiguïtés de l'opération finissent par exploser. Parce que confier les résultats à une institution privée permet de contrôler ainsi la com' autour. On annonce ainsi 1,5 million de participation des Français. Or, si on choisit de lire d'autres journaux, comme par exemple Mediapart, l'évaluation de Mediapart recense environ 400 000 grand maximum de contributions sérieuses. On croirait les écarts entre les syndicats et la police au moment d'une manifestation. Les réponses correspondent souvent à l'orthodoxie budgétaire actuelle, avec quelques velléités environnementales sur le carburant. Ce n'est pas étonnant, parce que si on étudie les estimations sociologiques des contributions de ce grand débat, on dégage un certain schéma, plutôt des personnes plutôt vieilles et aisées qui auraient volontiers voté pour Macron ou pour François Fillon. Et c'est assez étonnant de voir que les mesures défendues pour les gilets jaunes sont les grandes absentes, puisque c'est assez cocasse, puisque le grand débat était censé être la réponse à cette crise.
Alors, retour maintenant sur le dénouement d'une affaire vivement débattue. La cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône a condamné samedi 7 des 9 accusés jugés pour l'affaire Air Cocaine. Alors, pour rappel, ces personnes sont accusées d'une importation de cocaïne organisée depuis la République dominicaine et via l'aviation d'affaires. Verdict, 6 ans de prison pour les deux pilotes et les deux dirigeants de SNTHS, la compagnie d'aviation privée lyonnaise impliquée dans l'affaire, 18 ans de réclusion pour le commanditaire des vols transatlantiques et 12 pour l'homme qui a joué le rôle d'intermédiaire entre le monde des trafiquants internationaux de drogue et celui des opérateurs de l'aviation privée. Les pilotes, défendus par l'avocat Éric Dupond-Moretti, assurent n'avoir jamais su ce que transportaient leurs passagers, c'est-à-dire des kilos de cocaïne, et ont annoncé vouloir faire appel de leur condamnation. Le dirigeant de la société SNTHS, lui, avait fait part de ses doutes au service de police après avoir vu son avion revenir à vide, mais est accusé d'avoir été au courant de la nature du trafic, étant donné la comptabilité aléatoire de sa société. En bref, une affaire qui, sur plusieurs points, mériterait encore des éclaircissements. Et Arthur, tu nous parles maintenant d'un petit point sur les élections européennes qui approchent à grands pas.
En effet, parce que c'était la fin du débat sur BFM TV, ce qui était un grand moment de gêne national pour le débat des européennes. On ne sait ce qui est pire entre la chute des audiences, le temps accordé à l'immigration ou le ridicule du moment en général. Pour une élection pourtant centrale, puisqu'elle décide la composition du Parlement européen dont dépend maintenant la Commission européenne, la France impose son caprice de grande puissance sur BFM TV en refusant de s'élever à la hauteur des crises européennes, qu'elles soient migratoires, monétaires ou démocratiques, en ressassant soit la division de la gauche au mieux, ou au pire ses fantasmes migratoires. Nous pouvons dire que ces élections, déjà assez peu populaires, ne pouvaient être que plus confuses après ce débat, où finalement les lignes étaient assez brouillées, où il y avait un trop grand nombre de candidats. La confusion était en plus ma seule réaction possible après avoir vu Asselineau en train de jouer avec des menottes.
Et on passe maintenant à l'international et on commence avec un point sur le chaos qui règne actuellement en Libye, où s'affrontent les deux groupes qui se disputent le pouvoir depuis le renversement de Kadhafi en 2011. Le gouvernement d'accord national, ou GNA, reconnu par la communauté internationale, installé à l'ouest dans la région de Tripoli, est soutenu par plusieurs milices comme les Misratis, et dans l'est, les forces de l'armée nationale libyenne, ANL, autoproclamées et contrôlées par le général Khalifa Haftar. Alors, malgré l'accord conclu par les deux camps en février dernier, en vue de former un gouvernement unifié et d'organiser des élections, le maréchal Haftar a appelé ses troupes à marcher sur Tripoli, la capitale, où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Il a affirmé avoir mené dimanche son premier raid aérien près de Tripoli et a dirigé hier une frappe aérienne sur le seul aéroport fonctionnel du pays. L'adversaire de Haftar, le GNA, a annoncé le début d'une contre-offensive généralisée pour, je cite, « purger les villes libyennes des forces illégitimes ». Face à cette escalade des tensions et suite aux combats violents et meurtriers menés hier au sud de Tripoli, l'ONU et la communauté internationale ont unanimement appelé à une trêve des combats. Prochaine étape, la tenue d'une conférence nationale mi-avril et sous l'égide de l'ONU, une conférence qui devrait fixer une feuille de route prévoyant la tenue d'élections. À suivre donc. Un tour maintenant, Mathilde, du côté du Soudan.
Oui, le Soudan qui est secoué par des manifestations anti-gouvernementales. Hier, à Khartoum, des coups de feu ont été tirés entre les forces de sécurité, principalement des milices proches du pouvoir, et des opposants au régime d'Omar al-Bashir, soutenu par une partie de l'armée. Ce mouvement de protestation, qui dure depuis le 19 décembre, réclame le départ du président et une instauration d'une transition. Ce week-end dernier, des dizaines de milliers de manifestants ont appelé le général des forces armées et ses troupes à les rejoindre. La question demeure de savoir qui véritablement a pris parti au sein des forces armées, car la réponse changera la nature de ce conflit futur qui, depuis son commencement, a déjà fait 60 morts.
Alors, un comédien et humoriste novice en politique en passe de devenir président, ça paraît absurde, mais c'est pourtant ce qui se passe actuellement en Ukraine. L'humoriste Volodymyr Zelensky, en effet, est arrivé dimanche dernier en tête du premier tour de la présidentielle avec 30% des voix contre 16% pour le président sortant Porochenko. 5 ans après la révolution orange et l'annexion de la Crimée par la Russie, le charismatique acteur comique, anti-élite et pro-occidental, a séduit des électeurs excédés par la corruption, agacés par les soupçons qui pèsent sur l'actuel président Porochenko et préoccupés par la présence de l'armée russe sur son sol. Le second tour est prévu pour le 21 avril et l'élection semble essentielle pour plusieurs acteurs. Pour l'Ukraine d'abord, pays au niveau de vie très bas, dominé par les oligarques et encore soumis à des affrontements violents entre séparatistes russophones et forces gouvernementales ukrainiennes dans la région du Donbass. Pour les États-Unis ensuite, qui livrent des armes à l'Ukraine et veulent renforcer leur présence dans le bassin de la mer Noire. Pour la Russie également, qui soutient l'annexion du Donbass et cherche à éviter l'élection de Zelensky de façon à stopper le rapprochement de l'Ukraine et de l'Occident. Et puis enfin, une élection importante pour l'Europe aussi, l'Ukraine étant notamment le pays par lequel transite le gaz venu de Russie. Pour l'emporter face à Porochenko, Zelensky peut donc s'appuyer sur une campagne politique qui tient en 3 points, promotion de l'Ukrainien aux dépens du Russe, soutien d'une église orthodoxe indépendante et discours martial. Fin du suspense, le 21 avril prochain. Et on te retrouve maintenant, Benoît, pour un point sur la situation en Algérie.
Oui, vendredi dernier avait lieu la première manifestation depuis la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika. 3 jours après la démission du président au pouvoir depuis 1999, la mobilisation n'a pas faibli et les revendications se sont élargies. Loin de ne seulement dénoncer qu'un régime personnel autoritaire, les manifestants dénoncent un système généralisé de corruption opaque pour l'opinion publique. Si le départ de Bouteflika avait propulsé le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah sur le devant de la scène, c'est toute une mafia qui est dénoncée, et particulièrement celle nommée les 3B, à savoir Noureddine Bedoui, Premier ministre, Tayeb Belaziz, président du Conseil constitutionnel, Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, tous trois s'apprêtant à assurer l'intérim présidentiel. C'est ainsi toute une conception du pouvoir qui est remise en cause en Algérie par ces semaines de mobilisation, celle d'un pouvoir vertical et inégalitaire. Le peuple veut qu'ils s'en aillent tous. À lire quelques pancartes, il semblerait que cette révolution ne fasse que commencer.
Et partons pour finir en Israël, où se jouent actuellement des élections législatives riches en enjeux et en surprises. Aujourd'hui, en effet, ont lieu des élections législatives cruciales, lors desquelles le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou brigue un 5e mandat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la campagne n'est pas ordinaire. On a d'abord un nombre important de partis d'extrême droite, et parmi eux le Zehout, qui prône ni plus ni moins l'éviction des Palestiniens de leurs terres et la libération du cannabis. On a ensuite l'opposition entre les deux camps favoris, le Likoud, parti de centre-droit de Benjamin Netanyahou, et Bleu et Blanc, le parti créé par l'ancien chef d'état-major Benny Gantz, qui s'est allié au centriste Yair Lapid, une opposition qui se joue en partie sur les réseaux sociaux et par l'intermédiaire de vidéos parfois outrancières. On a enfin la promesse électorale annoncée vendredi par Netanyahou, l'annexion des colonies israéliennes en Cisjordanie, où vivent près de 400 000 juifs, des colonies pourtant illégales. Une stratégie populiste pour Netanyahou qui permet certes de s'attirer les voix de l'extrême droite, mais qui pourrait ouvrir les portes à une annexion pure et simple du territoire occupé. L'élection, marquée par l'omniprésence de la droite, par des polémiques personnelles et des questions sécuritaires, est donc cruciale pour un Netanyahou en position difficile. Bibi, comme on l'appelle, a en effet dû faire face à la démission de son ministre de la Défense, à la formation d'une alliance solide entre Benny Gantz et Yair Lapid, et le chef du Likoud est également visé par une triple procédure d'inculpation pour son implication dans 3 dossiers relatifs à des affaires de fraude, corruption et abus de confiance. Pour obtenir la majorité à la Knesset, le Parlement israélien, Netanyahou cherche donc à mettre en valeur un discours proche de celui de la droite religieuse messianique, ainsi que sa relation privilégiée avec Trump, qui a reconnu en mars dernier la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, conquis lors de la guerre des Six Jours, puis annexé en 1981, une affaire à suivre de très près.
Il est 7h39 sur Transistor, merci beaucoup à Marie et son équipe. pour ce journal. Et tout de suite, on te retrouve, Benoît, pour un billet d'ici. Bonjour, Benoît.
Bonjour, Rémi.